L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 279e, tu me ôtes les mots de la bouche Pierre, numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir je suis, vous avez pu le deviner, de toute façon vous l'avez deviné si vous êtes un habitué de cette émission, ou une habituée de cette émission, avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Alexandre.
On avait testé le micro avant, hein, mais on va pas vous faire un faisant d'eux de l'émission, hein, on n'est pas là pour vous expliquer les coulisses, mais quand même, on l'avait testé. Bon, c'est pas grave. Hein.
C'est le 3, le bouton, il déconne encore.
Ouais, chef, c'est le bouton. Donc, comme d'habitude, ce sera donc l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer, comme de coutume, par des actualités Internet et vie privée. Et on va commencer, roulement de tambour, par Google. Ouais. Dans les GAFAM, je commence par la première lettre, je commence par le G. Et donc, il y a une loi européenne donc, qui impose désormais donc, aux différents services donc, de fournir un service de fact-checking, hein, de vérification de l'information, hein, donc, pour lutter contre ce qu'on appelle les fake news. Alors, c'est vrai que les infox,
je crois. Hein,
la traduction française, je dirais, la plus précise et la plus claire. Et donc, Google a dit non, on n'appliquera pas.
Voilà, là où je trouve ça vraiment fort, c'est quand même, ils ont annoncé publiquement, ils ont dit, on ne respectera pas la loi. J'ai du mal à imaginer beaucoup de gens, enfin, beaucoup de personnes morales ou de personnes ou d'humains qui aient le droit de dire non, moi la loi, ouais, mais je vais pas l'appliquer, je vais pas la respecter.
L'ancien et en renouveau président des États-Unis,
oui, ou l'ancien président de la République française aussi, mais non, c'est des mauvais exemples.
Monsieur Pierre, je n'ai pas enfreint la loi.
On n'est pas sur service public, c'est bon, on a le droit.
Désolé pour cette imitation.
Non, donc effectivement, Google a dit non, on ne n'appliquera pas. On considère que ça ne correspond pas à nos services, donc non, on ne le fera pas. Donc ils se considèrent au-dessus de la loi européenne, donc ben, j'ai hâte de voir les sanctions éventuelles qu'il pourrait y avoir, sachant que, ben, alors on ne va pas trop en parler.
Sachant que même X, hein, dont on reparlera un petit peu plus tard, alors c'est des notes de communauté. Donc, alors après,
ouais, ça vaut ce que ça vaut.
Ça vaut ce que ça vaut, mais ça se traîne à peu près dans les grandes lignes, de loin.
Respecter la loi.
Respecter la loi, effectivement.
Mais un point qu'il faut prendre en compte, on n'en parlera pas trop parce que le sujet de cette émission, ce n'est pas de faire de la géopolitique ou des choses comme ça, mais avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui a quand même eu une campagne, une cérémonie d'investiture largement financée par les GAFAM, justement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gros bras de fer entre les États-Unis et l'Europe pour justement faire plier l'Europe sur tous ces règlements qui visent à protéger les citoyens européens face aux entreprises américaines.
Oui, et puis d'ailleurs, les GAFAM, hein, bon, on avait parlé de la semaine dernière, hein, de Mark Zuckerberg, donc le matron de Meta, donc qui chapeaute Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, qui là, clairement, fait allégeance donc, à Donald Trump. Alors, est-ce que c'est sincère
On parle du salut nazi d'Elon Musk ou il n'y a pas besoin?
Deux minutes, il y a un déroulé dans cette émission, monsieur Pierre. Oh, on balance pas les sujets comme ça au hasard. On a conduit sur cette émission. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais est un poil organisé. Hein. Malgré l'aspect fouillis, il y a quand même une volonté de l'organiser. Donc, on va parler plutôt d'une alternative à X, puisque voilà, hein, tu le cherches, c'est Mastodon, qui passe dans une fondation sans but lucratif.
Exactement. Donc, en Europe, en tout cas, il y aura l'écosystème et la plateforme Mastodon seront sous contrôle de cette fondation à but non lucratif. Leur objectif étant vraiment de s'assurer que ce soit marqué noir sur blanc partout, que voilà, c'est une plateforme qui n'est pas propriétaire fermée comme le sont toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Et il y a pas mal de discussions autour de tout ça. Notamment, j'ai beaucoup aimé une phrase sur... alors, c'est de l'anglais. mais sur l'importance de projets comme Mastodon, c'est « The people should own the town square ». Donc les gens devraient posséder le forum de la ville.
Alors, j'avoue qu'à traduire ça, c'est peut-être une expression idiomatique.
C'est un peu idiomatique, mais en fait, c'est le lieu de la discussion devrait appartenir aux gens.
Promis, pour la fin de l'émission, on vous cherche une traduction.
Je chercherai, c'est vrai, j'allais compter comme forum, parce qu'au sens antique du forum, oui, mais effectivement, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais, donc Mastodon, c'est un concurrent potentiel de X, de réseaux sociaux de cette forme-là.
Mais plateforme de microblogging,
comme on l'appelait. Microblogging, c'était le terme de Twitter au début.
Oui, c'était comme on l'appelait de manière générique il y a 15 ans. Il y avait Identica, c'est vrai qu'à un moment j'avais un compte à la fois. C'était Identica qui servait de source et qui appliquait sur ce qui était à l'époque Twitter. Je parle de ça il y a une quinzaine d'années.
Et l'une des difficultés aussi de Mastodon, c'est de s'imposer face. Alors là, en ce moment, il y a un effort, on va dire.
Alors, a priori, le côté décentralisé est un petit peu aussi contre-productif parce qu'il faut se faire accepter sur une instance. Enfin, c'est pas forcément. A priori.
C'est pas forcément aussi simple, effectivement. Mais c'est à la fois l'esprit d'Internet d'être décentralisé. Si vous voulez avoir le contrôle, si vous voulez vous assurer que on fasse pas n'importe quoi avec les données, il faut que ce soit décentralisé aussi. Et le dernier point, si c'est centralisé, il faut des grosses ressources. Si c'est décentralisé, il faut potentiellement plus de ressources, mais plus de petites ressources réparties un peu partout. Il faut pas des centres de données qui vont consommer des mégawatts d'énergie. Il va juste falloir que dans chaque quartier. Et il y a un chaton, voilà, on retombe sur le principe des chatons dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Il faut qu'il y ait des associations locales ou les mairies ou je ne sais pas quelle entité qui se charge de proposer ce genre d'instance. Et il y a, eu plusieurs discussions autour de ça aussi, sur le fait que là en ce moment il y a un mouvement de fuite de X vers Blue Sky. Blue Sky n'est pas plus ouvert que Twitter.
On va en parler. Donc, l'alternative qui marche le mieux, le problème, c'est qu'il y a moins de freins à la migration. D'ailleurs, il y a plusieurs personnalités politiques, essentiellement de gauche, des médias, en général plutôt progressistes, qui quittent actuellement Twitter, X, donc qui rejoignent pour beaucoup Blue Sky. Dans la liste, on peut citer par exemple Anne Hidalgo, ainsi que le comte de la ville de Paris. Dans les grandes villes aussi, il y a le maire de Lyon, Grégory Doucet, donc qui a également. Donc, alors, il désactive le compte, entre guillemets, ils ne nourrissent plus les comptes. Alors, donc ils ne les suppriment pas complètement, notamment pour éviter, je le comprends, le squattage de comptes. Donc il y a aussi Yannick Jadot et Cécile Duflot, donc c'est beaucoup de personnalités écologiques, comme Sandrine Rousseau également, mais aussi des médias. La Voix du Nord, notamment, qui n'est pas pourtant un média qui est particulièrement politiquement engagé, même s'ils avaient pris en 2015 parti contre le Front National lors des élections régionales. Mais c'est un média qui défend le complot démocratique, mais qui n'est pas de droite ou de gauche. Et Libération également. Le Guardian, on en avait parlé, le Guardian, donc le journal, pareil, plutôt de gauche, ce qu'on pourrait appeler de gauche, en tout cas au Royaume-Uni, des organisations telles que Greenpeace France ou la CVT. Et donc également l'Écho des Gnous, qui, je sais que c'est peut-être pas la solution idéale, mais en tout cas, c'est le compromis. Donc le compte Écho des Gnous, désormais, sera celui qui suivra l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes invité, Pierre, t'es pas obligé non plus. Donc à le suivre, en tout cas, pour le moment, on fait la même chose, c'est-à-dire que la plupart des gens qui quittent X pour rejoindre Blue Sky, c'est-à-dire que le compte n'est pas désactivé, mais par contre, nous ne mettrons plus de contenu en ligne, nous n'annoncerons plus les dates des émissions sur ce compte. Voilà, c'est actuellement ce qu'on fait. Vous pouvez également nous contacter alors durant les émissions sur IRC, donc sur Libera, sachant qu'IRC, c'est vrai que c'est plus technophile, et puis c'est, je dirais, un public assez... vexer nos auditeurs, mais je pense pas.
On parlera un moment des problèmes pour les réseaux comme ça, provoqués par les smartphones et certains choix arbitraires de Google et d'Apple.
Oui, en IRC, on a quand même.
Ça a jamais beaucoup dépassé, mais il y a d'autres problèmes techniques qui sont provoqués volontairement par Google et Apple.
En tout cas, il y a aussi une initiative donc, lancée par des chercheurs du CNRS, donc HelloKittix, donc, qui permet donc d'exporter ces données, qui permettent d'exporter les données, mais à partir d'un export qui est possible depuis le site d'X, de les importer donc, sur votre profil Blue Sky et pouvoir récupérer votre historique de tweets ainsi que votre liste d'abonnés. Voilà.
Mais rappel, Blue Sky est aussi fermé que Twitter.
Bon, actuellement, c'est quand même plus fréquentable et plus supportable.
C'est plus fréquentable, oui, mais ça reste une solution fermée. Envisager
je dis pas que c'est idéal comme oui. Le fait débattre pendant 10 minutes de la politique réseaux sociaux de les codes GNU, mais
non c'est pas le but, mais voilà.
Et des fois
on peut pas faire la promotion de Blue Sky comme ça.
Je fais pas la promotion, mais voilà, j'annonce que
oui,
nous y passons. En tout cas, j'ai décidé qu'on y passait.
Voilà.
Le responsable,
le responsable social, c'est toi.
Le responsable communication, exactement.
Le community manager.
On n'a pas d'autres GAFAM là pour le moment.
Si, on en avait encore sur X. Oui, l'Union européenne demande la documentation des algorithmes.
Ah,
de
pardon.
De
oui, c'est vrai.
Ne l'oublions pas, parce que ben effectivement, on en a parlé. Les problèmes autour de Twitter, donc X. Permettez que je dise Twitter parce que ça m'énerve ce nom à la con.
Je dis Twitter couramment, c'est vrai, mais j'ai dit X parce que bon, ça fait l'actualité.
Mais donc, avec les dernières lois qui sont passées au niveau européen, donc le DMA, DSA, AIACT et compagnie, l'Union européenne se met à exiger plus d'éléments et donc continue ses enquêtes. Et là, dans le cadre du DSA et donc la mise en conformité de Twitter par rapport à ces règlements, la Commission européenne exige de la part de Twitter la documentation interne du système de recommandation. Donc savoir comment ça fonctionne, quels contenus sont mis en avant, comment c'est modéré. Ce qui les intéresse en fait, c'est de savoir donc s'il y a une petite influence, s'il y a des influences de certains thèmes, s'il y a des biais qui sont présents dans les algorithmes directement, ce genre de choses.
Ce qu'on pressent...
Ce qui a été démontré par des chercheurs.
Ouais.
Parce qu'on pressent, justement, ne nous écrasons pas, on a pas le pressenti, l'avis subjectif ne compte pas quand ça a été démontré par des chercheurs. Les chercheurs ont démontré les effets des bulles de communication, les biais cognitifs qui font que du contenu choquant est plus intéressant et donc va être plus intéressant à mettre en avant pour la plateforme. Et le contenu qui choque, ça va être les propos de merde d'un facho sur Twitter. Voilà.
Plus voilà, le soutien annoncé d'Elon Musk à l'extrême droite et son salut nazi, on va dire ce que c'est.
Double salut nazi.
Double salut nazi.
Allez.
Ceux qui contestent le fait que c'en soit un essayent d'en faire un dans la rue, de faire le geste d'Elon Musk dans la rue et voir la réaction des gens.
Où je vous invite à regarder la dernière vidéo de Clément Viktorovitch sur YouTube sur ce sujet qui est assez précis, ouais. Assez clair et qui donne aussi un peu de contexte pour comprendre que aux États-Unis ils ont une moins bonne connaissance du nazisme que nous.
Disons qu'ils ne se sont pas pris sur les figures.
Hein, c'est ça.
Ce qui s'explique aussi, en tout cas, voilà, ça m'a incité en tout cas à franchir le pas. Donc j'ai fait aussi personnellement quitter, pareil, en laissant mon compte inactif, mais donc maintenant je ne poste plus que sur Blue Sky. Hein, on n'allait pas continuer à poster sur un réseau tenu par un nazi. On va parler un petit peu de la France, il y en a parlé beaucoup. L'étranger. Donc la vidéosurveillance algorithmique qui a été mise en place à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024 n'a servi à rien.
Exactement.
Étonnant, non ?
Alors, donc j'ai plus le budget en tête, j'avoue, ça avait coûté une blinde quand même. Et donc l'ensemble de tout ce qui a été mis en place, donc ils ont pu tester qu'un seul algorithme et sur la moitié seulement des motifs autorisés dans l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Donc déjà ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient tester, et sur tout ça il y a eu 6 détections d'intrusion et un colis suspect. C'est beaucoup, hein. Par contre, à tort, donc des feux de circulation, des vitrines ont été classées comme des incendies potentiels. Des poubelles et des sans-domicile fixe ont été classés comme des colis suspects. C'est beau.
Oui.
C'est vraiment beau. Donc voilà, donc rappel, qu'est-ce que c'est la vidéosurveillance algorithmique ?
On connaissait les dispositifs d'aménagement urbain anti-SDF, mais alors les considérer comme des colis suspects.
Ouais, voilà.
On les a considérés comme des nuisibles. On mettait une espèce de bombe répulsive, mais alors celle-là, c'est.
Donc rappel sur ce qu'est la vidéosurveillance algorithmique, c'est tout simplement ne plus avoir besoin de mettre un humain devant les caméras de vidéosurveillance et avoir un système qui signale automatiquement les infractions. on voit très bien que ça ne marche pas actuellement. C'est dans les cas où il y a peu d'éclairage, ça marche pas bien. Ça marche pas bien dans les espaces ouverts, ça marche mieux dans des espaces fermés comme les couloirs du métro ou les gares.
Et ça rend n'importe quel comportement potentiellement suspect. C'est aussi le principal problème.
Exactement. Et donc les n'ont pas été testés la détection de départ d'incendie, les chutes de personnes, la détection des armes à feu, parce que il y a des alors ça a été expérimenté par la ville de Cannes pour la présence ou l'utilisation d'armes, mais les résultats ne sont pas concluants avec un grand nombre de faux positifs.
C'est bizarre, mais monsieur Linard n'en a pas fait part.
Voilà, donc clairement ça marche pas. C'est zut.
Parce que bon, le maire de Cannes fait partie. Alors, il fait moins parler que Ciotti ou Estrosi, mais dans le genre droite dure, il est aussi pas mal dans son genre. Je propose qu'on écoute un premier morceau de musique. Nous allons donc écouter tous ensemble OK Boom Hour. Ou ça se prononce comme ça. Always Waiting. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6. La radio numérique terrestre, c'est campusfil.com.
fell away. There was nothing left to say. I just wish that you were still there waiting for me.
Peu de punk avec OK Boomer, Always Waiting. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus. C'est la deuxième partie des actualités. On va continuer avec des actualités vie privée et internet. Et on va parler de la France donc, qui a affaibli l'IA Act européen. Étonnant, non ? Encore une fois ?
Oui, étonnant. Donc, petit rappel. Le rôle de l'ancien secrétaire chargé d'État, l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique a été fort scruté puisqu'il s'agissait de Cédric O, qui est devenu désormais conseiller pour la start-up Mistral AI. Voilà, oui. C'est un bon début, je trouve.
Ouais.
Non,
c'est
pantouflage efficace.
Ouais, tristement commun quand même.
Ouais, tristement commun, mais enfin, je trouve que c'est. Je comprends toujours pas que ces comportements soient acceptés.
Ça devait être illégal.
Ça m'échappe complètement. Et donc, en fait, Paris a largement travaillé depuis donc fin 2022, hein, depuis la mise en place de toutes ces lois. Donc, notamment, la France est la seule à avoir demandé une exclusion totale de toutes les questions de sécurité et de défense. Donc, les secteurs de la sécurité et de la défense ne sont pas concernés par les interdictions sur la mise en place de systèmes de reconnaissance faciale en temps réel. Ça va, Alexandre ? Tu bugs ?
Je bug, oui. Alors, bon, la défense.
C'est-à-dire que si tu fais un système de reconnaissance faciale en temps réel, si c'est pour l'utiliser pour vendre des produits dans un magasin en disant regardez, vous avez des cernes, prenez cette anti-cerne, ça c'est interdit.
Tu parlais pas de la vidéosurveillance algorithmique tout à l'heure ?
La vidéosurveillance algorithmique, par contre, c'est une question de sécurité. Bingo ! C'est autorisé. Voilà.
Bon, la défense, c'est vrai qu'on a aussi une industrie de défense qui est assez forte en France. Hein. Réfléchissez à ça. C'est vrai que sécurité, c'est déjà un peu plus.
C'est comme ça, le nouveau missile pourra avoir un système de reconnaissance faciale pour être sûr de tuer le terroriste et l'immeuble autour de lui. Mais en allant avec sa petite caméra, il va faire tout le tour de l'immeuble, il va maison par maison, étage par étage, il va dire ah. Il est là, c'est lui, je peux péter tout le quartier maintenant. Je suis sûr que je l'ai vu.
Alors, tu sais, maintenant, c'est très précis, hein, les guidages de missiles.
Oui, oui, très précis. Sauf que ça, l'explosion, elle détruit un peu le bâtiment autour et tous les innocents.
Ouais, c'est tout de suite. Ouais.
Bon. C'est comme les missiles israéliens. Ils ont bien ciblé le terroriste qui était au 7e étage de l'immeuble. Ils ont détruit juste l'immeuble et les immeubles autour. Voilà. Pardon.
On va parler RGPD et donc. Ça fait rire Pierre.
Ah bah oui, okay. Celle-là, elle est rigolote, je trouve. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les plaintes ne peuvent concernant le RGPD, donc c'est-à-dire un citoyen lambda ou quelqu'un qui constate une infraction par rapport au RGPD et décide de la signaler à la CNIL ou à l'équivalent de la CNIL dans d'autres pays européens. Et donc, ces plaintes ne peuvent être rejetées par les autorités en question au seul motif de leur nombre et de la charge qu'elles font peser sur elles.
Ce qui paraît, somme toute, évident.
Tout à fait, mais je trouve ça fort cocasse quand même.
On a quand même besoin de la CEDH pour le rappeler. Ça, c'est... Voilà. Pardon, la CJU, je confonds.
Et donc, en fait, ça a été un conflit entre l'équivalent de la CNIL en Autriche, donc la Datenschutzbehörde de la DSB, et une personne physique anonymisée, donc on ne sait pas qui c'est. Mais donc, il y a eu une réclamation de la personne en question sur une violation alléguée du droit d'accès à ses données de caractère personnel. Ils disaient, et leur réponse a été « Non, c'est une demande excessive, non, on répondra pas. » Ils se plaignent que la personne en question, sur 20 mois, a envoyé 77 réclamations similaires sur différents responsables de traitement, donc sur de comptes différents sites.
Enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça fait un peu du FUD. Un peu du FUD, pardon, du DDoS, excuse-moi.
Du DDoS, non, en fait.
Un peu.
Ils se rendent compte...
Non, mais ça peut être une forme de DDoS.
Ouais, mais sauf que tu te rends compte qu'il y a une infraction qui est faite par telle entreprise, tu la signales, tu vis ta vie. Oh, tiens, la même infraction par une autre entreprise, ben tu signales, Et voilà, en fait, c'est juste ça. Le mec, il a appliqué le RGPD, enfin, il connaît le RGPD, il sait ce qui est demandé aux entreprises, il a dû faire des demandes d'accès aux données. Les entreprises qui n'ont pas répondu dans les temps, qui n'ont pas répondu, ben, il les a signalées, c'est aussi simple que ça. des demandes d'accès RGPD, moi j'en ai déjà fait, donc ça ne me choque pas du tout que le monsieur il en ait fait plusieurs et qu'il ait signalé ce qui n'allait pas. Et donc le simple constat de surcharge n'est pas une excuse valable pour refuser des plaintes. Et c'est aux États membres de fournir aux autorités les moyens adaptés au traitement de toutes les réclamations dont elles sont saisies. Voilà.
On est un peu à la frontière là, de la vie privée et de la sécurité, mais c'est quand même beaucoup la vie privée et le secret de la correspondance, hein, qui est donc un principe du droit français. Et donc Europol, hein, donc, qui est le regroupement donc, des polices européennes.
Nationales, pardon.
Honnêtement, hein, utiliser l'Allemagne comme exemple d'un pays gangréné par l'extrême droite, maintenant, zut. Voilà. Il y a 20 ans, on disait l'Allemagne était un pays, un paradis, mais un pays à l'abri de l'extrême droite, et on se rend compte que le vaccin ne fait plus suffisamment effet. A priori. Donc, Europol, pour revenir à notre sujet, ne considère pas l'anonymat comme un droit. Donc, le secret des correspondances ne sert pas un droit, et donc les plateformes devraient déchiffrer les conversations pour que les polices européennes puissent y avoir accès.
Exactement. Ils souhaitent que des portes dérobées, on en a parlé il y a 2 semaines,
oui.
Que des portes dérobées soient mises en place.
Pour qui il y a 2 semaines d'ailleurs.
Ouais, mais il y a 2 semaines, on avait eu un bon exemple avec justement les portes dérobées mises en place aux États-Unis auprès des différents opérateurs télécoms. Portes dérobées qui ont été exploitées par des États ennemis des États-Unis comme la Chine et la Russie. Et donc, Europol voudrait la même chose, il voudrait qu'il y ait des portes dérobées. C'est à chaque fois les différentes polices qui remontent ça en disant non, il faut des portes dérobées. Il faudrait des portes dérobées dans les systèmes de messagerie, que ce soit ceux d'Apple, de Google, de Facebook, de Microsoft ou d'autres. Et y a un problème, en fait, du coup, à l'idée de faire ça, c'est que si les portes dérobées sont utilisées par d'autres, on a un problème de sécurité. Et le secret de la correspondance n'est pas réservé. Et encore une fois, on peut prendre l'exemple. Moi, je n'ai pas connaissance. Si j'envoie un courrier à quelqu'un, il n'y a aucun système qui a été mis en place à la poste pour dire les courriers, on les intercepte tous et on les ouvre. Ça n'existe pas, il me semble.
Et si quelqu'un mettait... Après, ça peut... Il y a des méthodes. Après, c'est vrai que la différence avec le courrier physique, il n'y a pas de méthode systématique.
Voilà.
Ça doit être très ciblé. Vous n'allez pas effectivement commencer à ouvrir et à refermer le courrier de tout le monde.
Alors que là, c'est possiblement tout le monde. Et c'est ça le gros problème. Mais on verra. Sachant que...
Après, voilà. Avec les backdoors, hein, c'est croire qu'une faille de sécurité ne pourra pas être découverte. Ce qui est antinomique.
Oui.
Non, mais c'est quand même le principe de base. C'est que on peut mettre volontairement une faille de sécurité et penser que seuls ceux qui l'ont mis en place connaissent son existence.
C'est ce qui est stupide, effectivement. Donc, à suivre. Hein, mais donc, voilà. Le chef d'Europol estime que les GAFAM et autres ont la responsabilité de déverrouiller les messages, enfin d'ouvrir les messages chiffrés.
Google avait été ciblé par l'Union européenne pour ses pratiques, mais c'est également le cas de l'autorité de la concurrence britannique,
Royaume-Unienne, britannique.
Bon, voilà. Qui désormais ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc une enquête, Pierre, a été diligentée, a été ouverte.
Contre Google, effectivement, pour savoir
la Competition and Market Authority.
Exactement, pour savoir si Google doit être placé sous le statut de marché stratégique, qui lui imposerait du coup de s'ouvrir beaucoup plus à la concurrence. Parce que, on l'a déjà dit plein de fois, Google domine le marché de la recherche en ligne, donc plus de 90%. Et domine le marché de la publicité en ligne. Et donc, le croisement entre les deux pose problème.
Et dominer, excuse-moi Pierre, le marché de la recherche en ligne, c'est surtout avoir donc une influence certaine sur ce que les gens voient sur Internet, parce que c'est quand même le point d'entrée principal maintenant. Soit vous connaissez le site, hein, et soit...
De moins en moins de gens le font.
On est un peu des vieux CON. Mais sinon, je le fais également. Hein, souvent, j'utilise des recherches Google.
Et le problème là-dedans aussi, c'est qu'on ne connaît pas les critères de Google. Peut-être que Google pourrait dire, cette page-là, ils utilisent nos annonces, ils utilisent des publicités chez nous, cette page-là, ils utilisent des publicités chez un concurrent, la page avec les publicités du concurrent, on va la mettre derrière dans les résultats de recherche. Sachant qu'il y a aussi été démontré que seule la première page de résultats de recherche est réellement consultée, les pages suivantes, personne ne s'y attarde. Donc, à suivre. Le terme de l'enquête est fixé au 13 octobre. Donc, on verra au bout d'un an ce que ça dira. Donc, ils pourront soit avoir des exigences de conduite, soit des interventions pro-concurrence. À suivre. On ne sait pas exactement ce que ça va couvrir. On ne sait pas s'ils auront aussi loin que ce que commence à exiger l'Union européenne.
Ce qui est à suivre, c'est également cette émission. Tout de suite, la dégeekalisation, tout de suite presque, puisqu'on va écouter Kinematic Seaside Town juste avant sur l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Just to cool me down, come on everybody, I wanna meet you by the town. Come on everybody to the seaside town, come and have a drink, come cool down, I wanna meet you there. We walk down to the shoreline, had a little swim with a friend of mine.
Côté Simon Garfunkel, matinée de Beach Boys. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. C'était donc Kinematic Seaside Town sur l'écho des gnous Radio Campus en 6,6. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Et ce soir, la carte à la carte Pierre, ce thème cryptique. Tu vas donc nous le dépiauter, expliquer.
Tout à fait. C'est suite à une petite expérience personnelle et à un petit tracas quotidien à la con, je me suis rendu compte de ça, j'ai creusé un peu, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup d'en parler. Il y a quelques semaines, j'ai eu une coupure de gaz chez moi.
Ça arrive,
voilà. Je suis allé, j'ai cherché du coup, à savoir si c'était mon installation ou si c'était plus global, donc je suis tombé sur le site de GRDF.
Et, qui est donc le distributeur de gaz en France.
Voilà. Et le site de GRDF utilise... Donc, il y a un champ où on saisit une adresse, complétion d'adresse par Google Maps. Et donc, une fois qu'on a saisi l'adresse, ça affiche la carte Google Maps avec les zones d'incident sur le secteur.
Est-ce qu'il y a le petit encart pour dire qu'ils n'ont pas payé ?
Non, ils ont payé. Mais justement, voilà la question. Est-ce que tu as la moindre idée, toi, de combien que ça coûte Google Maps ?
Écoute, j'en ai pas la moindre idée. On en a peut-être parlé lors d'une émission il y a...
Mais les tarifs évoluent quand même assez souvent. Et donc, sur un autre projet personnel, il y a quelques jours, j'ai eu besoin de données de cartographique. Et j'avais pas le temps de me monter un serveur de recherche d'adresse nominative ou équivalent. Donc je me suis dit, combien ça coûterait de le faire avec Google Maps ? Donc je l'ai fait avec la BAN derrière. Et on va parler un petit peu de tout ça.
Alors, au moins, est-ce que c'était des images avec des vues satellites ?
Non.
Même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de justification. OpenStreetMap, c'est une très bonne base d'adresse. Mais tu vois, par exemple, la vue satellite, il n'y a pas.
Non, mais...
Il y a avec le service public, avec Geoportail. Après, je ne sais pas si...
je ne sais pas si c'est disponible. Et donc, pour donner une idée, Alexandre, si chaque mois, un service comme ça, qui est disponible pour toute la France, chaque mois, combien de milliers, de centaines de milliers de requêtes ils peuvent se prendre sur ces formulaires ? S'ils se prennent, ne serait-ce que, 300 000 demandes de complétion d'adresse, c'est-à-dire que vous tapez Villeneuve et ça complète en Villeneuve d'Ascq, ça, c'est une complétion d'adresse. Après, la traduction rue du Poney qui tousse à Villeneuve d'Ascq en telle coordonnée latitude et longitude, c'est encore une autre requête.
Ouais. C'est ce qui fait que souvent quand tu tapes Lille, tu te retrouves avec Lille Bonne, mais bon, c'est autre chose.
Exactement. Donc imaginons qu'il y ait 300 000 demandes de géocodage et 300 000 demandes de complétion de requête par mois, on est déjà sur 2 000 $ par mois versés à Google.
Bon, après, pour une entreprise de la taille de GRDF, 2 000 $ par mois, c'est pas plus...
C'est ça, mais... Les requêtes d'affichage de la carte, c'est aussi un budget conséquent. C'est 300 000 requêtes d'affichage de carte, c'est déjà 200 $. Et le tout s'accumule. Et en fait, sur une entreprise comme GRDF, à mon avis, ils sont sur le fameux cas pour obtenir une idée du tarif, contacter le service commercial. C'est-à-dire, là, on discute différemment. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ? Pourquoi vous avez besoin de tout ça maintenant...
Pour éviter d'avoir embauché des informaticiens. Après, les entreprises
ils
dont
en
l'informatique
sont
pas...
d'en avoir, puisque c'est sur leur site.
Après, oui,
arrête,
non mais...
Arrête la mauvaise foi, c'est leur
propre site. C'est pas du tout la mauvaise foi. Ça permet d'embaucher moins, d'embaucher que le nécessaire et de sous-traiter. D'ailleurs, je pense que les informaticiens en question sont déjà, pour beaucoup, sous-traités. On connaît comment fonctionne le marché du travail dans l'informatique. Beaucoup de prestations qui sont faites dans les services informatiques, en fait, viennent de sociétés extérieures.
On peut prendre aussi un autre cas, on peut prendre le cas de la petite entreprise qui affiche une carte pour montrer l'emplacement, mettons, à un commerce qui affiche la carte Google Maps. Et ça, ce cas d'usage, moi, je le trouve d'un danger inouï, puisque Google Maps, je vous rappelle que n'importe qui peut payer pour avoir son emplacement mis en avant. Donc vous pourriez très bien avoir le site de votre entreprise de magasin qui met en avant les concurrents, puisque ils ont payé plus cher sur Google Maps que vous. Et en plus, vous êtes déjà obligé de payer Google Maps pour l'afficher sur votre site. Et je me suis dit quand même, est-ce que c'est...
Moi, je trouve que ça sert à rien de lui donner l'adresse. Et après, les gens, ils se font une... Enfin, je vois pas l'intérêt. Surtout en gros plan, tu vois.
Voilà, ça, c'est autre chose. Débat. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment si compliqué ? Donc déjà, tout ce qui est géocodage, complétion d'adresse, etc., il existe en France. Alors, je reconnais, si c'est pour faire de la recherche à l'international, là, c'est un poil plus compliqué à mettre en place parce que là, vous devez faire du nominatim ou autre. Mais c'est même ça... C'est pas compliqué. Franchement, pour un informaticien, c'est basique à installer. Mais la BAN, c'est encore plus simple, puisque c'est un service qui est fourni par l'État.
La base d'adresse nationale.
Exactement. Avec différents sous-projets, les banaux, les bases d'adresse nationale locale, ce genre de choses. Et en fait, c'est la base officielle. Google Maps n'est pas censé être complet, n'est pas censé connaître toutes les adresses en France. La BAN est censée être complète, et c'est celle qui est utilisée par les impôts, qui est utilisée... par tous les services.
Mais est-ce qu'elle est disponible en ligne ? Parce que les adresses...
Elle est disponible en ligne et une API est disponible gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer pour l'utiliser, il n'y a pas besoin de token, c'est simple. Mais les gens préfèrent payer, voilà ce qu'on a dit,
peut-être de l'ignorance,
2 000 $. C'est sûrement de l'ignorance, et d'où le fait d'en parler ici. C'est quand même pas bien compliqué. Autre cas d'usage, donc...
Arrête, les DSI vont commencer à nous écouter maintenant. Des conseils pour la commune.
S'il ne serait-ce qu'un seul site se dit « Tiens, je vais utiliser autre chose que Google Maps », honnêtement, je trouverais que c'est déjà gagné pour cette chronique. Et donc, l'autre cas d'usage, l'affichage de tuiles. Alors là, j'ai fait l'expérience. sur l'équivalent d'un Raspberry Pi pour montrer à quel point il faut des machines
surpuissantes.
Costauds. Hein. J'ai téléchargé la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, je sais pas combien de minutes. Ça m'a même pas pris de 20 secondes. J'ai téléchargé ça au format OpenStreetMap et j'ai lancé un logiciel de conversion qui a tourné en 5 minutes. Et désormais, l'équivalent de ma Raspberry Pi peut afficher une carte vectorielle du Nord-Pas-de-Calais. Et pouf, comme ça. Ça m'a pris 5 minutes. J'ai juste téléchargé le logiciel TimeMaker, qui est un logiciel libre et gratuit. Je l'ai lancé avec sa configuration à peu près par défaut. Et voilà, j'ai juste pas mis l'océan parce que ça me faisait chier d'avoir à couper le fichier de l'océan pour avoir que le bout d'océan sur la côte de Dunkerque. De toute façon, Dunkerque, c'est pas joli, on n'y va pas. Ceci était un message personnel et gratuit. Mais donc, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser Google Maps pour tout ça, sachant que là, on a une carte vectorielle, fluide, gratuite, que vous pouvez mettre à jour quand vous le voulez, sur laquelle vous pouvez choisir ce qui est affiché. Et ça ne prend pas de temps.
Ouais, mais faut juste avoir la connaissance, le tuyau.
De l'existence de ça, c'est pas une connaissance technique. Il faut savoir que ça existe. Et c'est d'où le but ici, c'est de dire ça existe. Il ne faut pas se jeter dans les bras de Google Maps en se disant bah voilà, tout le monde utilise Google Maps, utilisons Google Maps. Le seul cas que j'ai pas cité ici, c'est.
C'est une compétence. Savoir connaître les bons outils, faire la vieille.
D'où le fait d'en parler. Mais donc, la seule limite qu'il y a, et ça par contre, c'est un gros problème, c'est tout ce qui est calcul d'itinéraire, et surtout calcul d'itinéraire prenant en compte le trafic, puisque là-dessus, sans la puissance d'espionnage d'un Google ou d'un Apple, puisque vous avez un smartphone Apple ou Google, donc ces entreprises savent exactement où vous êtes. Rappel, la fonctionnalité de GPS n'est pas nécessaire pour savoir où vous êtes, puisqu'il suffit de croiser avec les données des antennes télécom pour savoir dans quel secteur vous êtes. Ensuite, on croise avec les informations du gyroscope du téléphone pour savoir la vitesse, la direction du déplacement, et on sait exactement où vous êtes. Puisque si vous vous déplacez à 50 km/h, c'est que vous êtes en voiture ou en moto, mais pas à vélo ou pas à pied. Donc vous déplacez sur une route, et le profil d'une route est unique. Dans une zone autour d'une antenne, c'est très rapidement unique, et donc on n'a même pas besoin de la puce de GPS pour ça. Et ces solutions-là leur permettent de savoir où se trouvent les bouchons. Et sans ça, sans un espionnage massif de la population, effectivement, c'est un avantage concurrentiel non négligeable pour les Google ou Apple. Mais voilà, Google Maps, moi je ne comprends toujours pas qu'un site web lambda affiche la carte Google alors que,
pour un commerce, je pense que c'est
afficher la concurrence.
Je pense que les gens utilisent ce qu'ils connaissent également. Faut pas chercher.
Je dis pas que les gens font
ça. Pour la plupart des gens, le service de cartographie en ligne, c'est Google Maps. Voilà, c'est tout.
Ouais. Mais il y en a d'autres et c'est franchement pas compliqué à utiliser.
Si, comme moi, vous aimez l'histoire, les vieilleries, vous pouvez regarder. Ils ont mis en plus en consultation les fonds de cartes de tout leur prise photographique aérienne depuis les années 20.
Pour ma part, j'attends surtout les cartes au lidar de leur part. Mais non, ça, c'est autre chose.
Chacun son truc, Pierre. Merci Pierre pour cette dégeekalisation. On retrouve des nouvelles sur les logiciels libres, mais pas que, mais surtout libres. Après, Kyle Cox, No Matter How Far, excusez-moi, I speak English very well. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 11,6 en français. La radio numérique terrestre, c'est campuslibre.com.
No matter how far, no matter wherever you are, I'm with you. Deep in your heart, my love, I'll stay when I'm away. No matter how far, no matter the weight, no matter the pain. No matter the way, although there's miles to cross that stretch between us, you're all I dream of. There's nothing too great that can't separate you from my love, no matter how long.
stretch between us. You're all I dream of. Well, there's nothing too great that can't separate you from my love. No matter how long, no matter the time that has gone between us. Well, darling, I'm yours and I'm yours alone. I'll always come home, no matter how long. I'm yours alone. I'll always come home, no matter how long.
C'était Kyle Cox, No Matter How Far. Un petit peu de jazz pour changer. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6. On va parler actualité. On va parler actualité logiciel libre. On commence par Wine, même si Pierre est parfaitement sobre. Il va parler d'un verre de vin.
Alors, je suis désolé de perturber le conducteur de l'émission comme ça. Je voudrais juste faire un commentaire par rapport aussi à...
Commenter donc, Pierre.
À Google Maps, on en parlait avant. Et là...
on a passé notre temps à...
Habitué pendant l'émission, pendant la coupure musicale. Et juste une remarque aussi, Google s'amuse à utiliser les photos aériennes pour faire de la détection des bâtiments et pour recoller les bâtiments sur la carte. Ce qui donne des résultats fort cocasses. Par exemple, Google invente des bâtiments. Là, je me promenais sur la carte de Lille pour comparer entre du Google et du OpenStreetMap. Je vois un bâtiment qui mord sur les routes sur la carte Google Maps. Je ne le vois pas du tout sur OpenStreetMap. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette connerie? Ben, c'est pas un bâtiment, c'est juste la terrasse d'un restaurant avec...
Une terrasse couverte.
Une terrasse couverte.
C'est des terrasses, en plus, Lille. Donc, c'est plutôt quand même pas mal.
Voilà, donc en fait, je trouve la carte Google Maps s'est franchement dégradée ces dernières années avec des bâtiments qui mordent sur les routes. C'est un placard publicitaire permanent, ce qui est très désagréable, je trouve, à l'utilisation. Mais voilà.
Bref, on parle de Wine, Pierre, histoire de 1.
Parlons de Wine, parlons de logiciel libre. Plus réjouissant, ça dépend. Moi, je bois pas, donc le Wine, moi, je ne bois pas spécialement. Mais donc, Wine, c'est la solution la plus connue, la plus utilisée au monde pour faire tourner des applications Windows sur Linux et éventuellement sur d'autres systèmes comme macOS ou les systèmes BSD. Wine est notamment très utilisé à travers, donc de nos jours, à travers Proton, la solution de Steam, de Valve, l'éditeur de jeux vidéo, qui lui permet de faire tourner des jeux Windows sous Linux, y compris sur ses consoles Linux. Et donc, Wine a sorti une version 10. Alors, ils sortent une version majeure tous les ans. C'est l'occasion de rappeler l'existence du projet, de rappeler ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Donc là, ils ont travaillé sur plusieurs thèmes, on va dire, à la mode. Ils ont travaillé sur la compatibilité avec Wayland, donc nouveau système d'affichage Linux. Ils ont travaillé sur la gestion des hautes résolutions, dont on a parlé il y a 2 semaines. Ils ont travaillé aussi sur le support de l'ARM64EC. Alors ça, c'est une monstruosité de Microsoft qui a été créée à cause du fait que sous Windows, on utilise des logiciels propriétaires. Et du coup, quand on doit faire s'interfacer des logiciels propriétaires entre eux qui ont été faits pour des processeurs différents, ça devient très compliqué. D'où le fait que Windows ait beaucoup de mal à changer de plateforme et que les ordinateurs Windows ARM... C'est une rareté. On en parlait encore il y a une ou deux émissions des difficultés de compatibilité de Windows sur ces machines. Et donc Wine prend
Windows
mieux en charge.
CE, c'était sur quel c'était pas de l'ARM.
C'était de l'ARM, du MIPS, du PPC, et il a été porté sur autre chose encore, je crois. Mais Windows CE ne faisait pas tourner des applications Win32 classiques.
C'est vrai.
Voilà. Besoin d'autre chose? Je suis pas historien Windows, mais j'ai
Je vois qu'il y a quand même un bon répondant quand même sur le sujet.
Ouais, je vais vérifier Wikipédia quand même pour être sûr de ne pas t'avoir dit de conneries. Et donc, autour de Wine, dans les autres nouvelles, donc mise à jour de DXVK, donc qui permet de faire tourner des applications principalement orientées jeux vidéo, pour le coup, avec une version plus performante que ce qui est intégré dans Wine. Cette année, on devrait voir donc le pilote NT-Sync conçu pour améliorer les performances de Wine et des applications Windows sous Linux. On devrait le voir intégré sous Linux. À suivre pour cette année. Et pour répondre à ta question, non, il n'y avait pas de PPC a priori pour Windows CE. Par contre, il y avait l'architecture que j'oublie toujours, l'Hitachi SH. Voilà. Vous me disiez bien que j'en avais zappé un.
Architecture que j'ignorais d'ailleurs. Voilà. J'ignorais l'existence. Pierre, on tient le bambou. Merci pour
oui, merci.
La démonstration du danger du matériel lié à des logiciels Cloud.
Cloud, exactement. Donc, on va parler un tout petit peu d'imprimante 3D. Alors, on va aller très vite parce que c'est un sujet qui mériterait une dégeekalisation à part entière. Mais dans les différents paramètres importants pour une imprimante 3D, il y a le slicer, qui est un bout logiciel qui transforme le modèle 3D en instruction à faire exécuter par l'imprimante. Voilà, c'est le truc. Il y a un slicer libre qui est réputé. Alors, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est... je crois que c'est basé sur c'est Prusa Slicer, donc qui est un slicer qui découpe en tranches. Bamboo a décidé en 2020 de faire des nouvelles imprimantes. Alors ils ont fait des imprimantes vachement mieux que celles de Prusa, qui était le fabricant de référence à ce moment-là et l'éditeur de ce logiciel. Et ils ont fait des imprimantes qui étaient vachement mieux et vachement moins chères. Tout le monde s'est précipité dessus, a tapé sur l'ancien fabricant, etc.
Ça a vachement bien marché.
Exactement. Donc, Prusa, ça leur a coûté cher, parce que ça leur a fait beaucoup de mal. Et l'entreprise en question a fait un fork du logiciel libre Prusa Slicer et a décidé de le faire tourner en cloud. Et donc, pour imprimer, vous envoyez votre modèle 3D sur des serveurs, en dehors de l'Europe. Vous envoyez vos modèles avec des logiciels propriétaires, d'ailleurs, hein. Et l'imprimante se connecte à ses serveurs et reçoit les instructions comme ça. Et oh, ça marche, c'est facile à utiliser. Super. Sauf que là, Bamboo a décidé de faire une mise à jour du logiciel de ses imprimantes pour des raisons de sécurité. Mais depuis, il n'y a plus absolument que cette solution qui est autorisée. Avec cette mise à jour de sécurité. Et donc, ils ont fait du mal à concurrence en vendant à des prix bradés. Maintenant que la concurrence s'est pris 2-3 jetards dans la gueule et qu'ils sont en position dominante... Voilà, on va fermer. Enfin, qu'ils ont le moyen de se mettre en position dominante. Est-ce que vous...
Alors, un bel exemple de dumping.
C'est ça, et c'est du bait and switch, comme on appelle ça. C'est on vous attire avec la sucette, et après, hop.
Et du dumping, ou du dumping, en fait. Hein. Oui. Il y avait une expression qui existait déjà, alors elle est également anglo-saxonne. Mais...
Et donc, petite blagounette. On continue dans la série de la réparabilité ?
Allons-y, Pierre.
Allons-y, on va parler un petit peu d'Intel, dans la famille foutage de gueule un petit peu quand même, même si je vais leur accorder le bénéfice du doute, peut-être que c'est pas la même équipe. On sait jamais.
Je vous laisse poursuivre.
Donc Intel a lancé, alors c'est dans un blog, dans un blog d'Intel, mais grosso modo, ils appellent à ce qui est un système plus modulaire pour la conception des PC, afin que le remplacement et la mise à jour des composants soient plus faciles. Donc ils aimeraient bien notamment que les
cartes... Ce qui s'appellerait aussi du papier les années 90.
Mais pas que. En plus, on a connu surtout les années 90 PC, il y a eu des années 90 certaines autres architectures où là tu pouvais avoir des changements beaucoup plus importants parce que tu avais le processeur qui était sur sa carte et j'avais plein de trucs qu'on pouvait faire, c'était encore mieux.
Mais personne s'en servait.
On parle des Mac Power, je te rappelle.
Ouais, il y a pas. C'était à l'époque du déclin de Mac quand même. Enfin bref.
Oui,
on s'égare.
On s'égare de l'Est. Bref, donc, Intel promeut ça en disant, voilà, il faut des cartes d'expansion. En gros, ils promeuvent le modèle du Framework Computer, donc c'est ce fabricant d'ordinateurs portables. Et je voudrais juste pointer le côté foutage de gueule d'Intel, puisque à chaque nouvelle génération de processeurs, ou presque, Intel change le socket, c'est-à-dire la prise, entre guillemets, sur laquelle on branche le processeur. Alors que AMD, en 5 générations de processeurs, ils ont changé une fois de socket. Ils ont fait une socket. En fait, ils disent, AMD annonce, voilà, on fait une socket pour 3 générations de processeurs. Intel ne s'est jamais engagé là-dedans. Donc, qu'Intel appelle à une conception plus modulaire, plus remplaçable, plus réparable, etc. Bravo, appliquez-le à vous-même d'abord, s'il vous plaît. Ne vous foutez pas trop de la gueule du monde. Accessoirement aussi. Est-ce que ça veut dire que les fabricants arrêteront d'imposer, de n'utiliser que des pièces qu'ils ont vendues eux-mêmes ? J'en doute. Et puis, qui fournit des technologies pour mettre ce genre de restrictions en place ? Intel. Pardon.
On parle au niveau réparabilité des hôpitaux américains, Pierre ?
Oui, parce que c'est une belle blagounesse celle-là. Hein. Pourquoi le droit à la réparabilité est-il important ? Alors aux États-Unis, on en a pas mal parlé avec des sujets autour des tracteurs, et là, c'est un sujet autour des hôpitaux qui apparaît. Les hôpitaux ont des services techniques en interne,
oui,
qui réparent les machines.
Un peu leur boulot.
Un peu leur boulot, voilà. Quand la machine qui a coûté 100, 200, 300, 500 000 dollars est en panne, vaut mieux la réparer.
Oui.
Et Ben, petit problème, le fabricant d'un appareil qui est le Advanced Perfusion System One Heart Lung Machine, qui sert lors des opérations à cœur ouvert à rediriger le flux sanguin. Hein, donc c'est un peu la machine pour survivre aux opérations à cœur ouvert, un petit peu. Et donc désormais, ils ont envoyé un courrier aux hôpitaux annonçant que désormais, ils ne fourniraient plus de certification pour les réparations et la maintenance préventive de ces éléments-là. Ils ne vont plus apprendre aux techniciens des hôpitaux à le faire et ils ne vont plus autoriser ces réparations. Ce sera cette entreprise-là uniquement qui fera les réparations à des tarifs... Voilà, on en parlera.
Ah, ça coûterait cher, l'ASIC. Ah ben non,
c'est les États-Unis. Ça n'est pas le cas en France parce que ben, voilà, là, on parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais en France, avec les systèmes de certification et autres, il n'y a absolument rien qui interdirait la même chose de se produire. Et donc, on parle du droit à la réparabilité. Ce n'est pas seulement pour les téléphones portables, ça peut être aussi pour des questions de vie ou de mort. Parce que si l'hôpital n'a pas le budget à reclaquer pour se rééquiper tous les deux ans, ben les appareils qui ne sont plus maintenus, ils vont devoir juste les mettre sur le côté parce que s'il y a le moindre incident, c'est un procès colossal. Donc, les hôpitaux vont juste moins pouvoir soigner de gens. Et donc, il va y avoir des morts. Bravo le capitalisme. Il n'y a pas d'autre mot.
Merci, Pierre, pour toutes ces news.
Toutes ces actualités,
toutes
merci.
Ces actualités, pardon. Oui,
excusez-moi.
Un petit point sur l'agenda. Donc, demain, si vous nous écoutez en direct, donc, il y aura la permanence de Ch'tidev, donc, qui est un collectif de femmes et de minorités de genre qui travaillent dans la tech dans les Hauts-de-France, mais qui propose une rencontre donc, pour venir changer de 18h30 à 20h. Ce sera donc à Grand-Seine, donc, qui est un foot court, rue de Béthune, donc, dans le centre de l'île. Métro, Riour ou République Beaux-Arts, c'est comme vous voulez. Et le lendemain, juste à côté, donc au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux, bon, République Beaux-Arts, après vous pouvez descendre Riour également, donc le permanence autour du Libre, donc de 20h à 22h, et juste avant une permanence OpenStreetMap, de 18h à 20h, vous pouvez faire une soirée, une fin de journée, une soirée libre mardi, et mercredi donc à Villeneuve-d'Ascq, donc un atelier libre à vous, donc à l'OMJC rue Yves de Cugis, donc à Villeneuve-d'Ascq, ville qui héberge donc cette émission de radio. C'était le 279e numéro de l'Écho des Gnous. Vous avez rendez-vous dans deux semaines avec l'Écho des Gnous 280. Donc on sera le dimanche, j'ai noté, 9 février. Dans une semaine, ce sera donc la deuxième ligne, émission autour du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et tout de suite, vous avez rendez-vous comme... tous les dimanches soirs à 20h avec Chu Papimento. Il ne nous reste plus qu'à...
T'as oublié dans l'agenda le FOSDEM dans deux semaines.
Et le FOSDEM dans deux semaines où il y aura une petite protestation. On parlait donc des fondateurs de Twitter. Donc un milliardaire donc, qui a causé beaucoup de tort aux libres et aux architectures ouvertes.
Qui défend les crypto-monnaies malgré l'impact sur l'environnement, etc. Voilà. Ouais, c'est du bon monsieur.
Donc Pierre,
bon.
Peut-être tu nous feras peut-être un petit débrief de ton...
J'irai pas au FOSDEM.
T'iras pas au FOSDEM, donc on ne fera pas un petit débrief. Mais en tout cas, on sera ici, présent.
J'ai ma fille, là, donc non.
Et on vous attend à l'autre bout du poste. Bonne fin de week-end, au revoir à tous.
Bye bye.